Alors ce matin, on va rester dans Matthieu, puisqu'on a commencé avec Matthieu. Je voudrais qu'on parle de la parabole des talents. Vous avez déjà certainement entendu parler là-dessus, mais on va recommencer. C'est Matthieu 25 à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. » Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et qui amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, je retirerai ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors on va essayer d'identifier un peu qui sont les personnages de cette parabole, leur caractère, et puis les éléments qu'on trouve dans ce passage. Alors, premièrement, on va parler du maître, bien sûr. Le maître, d'évidence, il représente notre Seigneur, il représente Jésus. Cette parabole, elle fait partie de 2 chapitres qui parlent du retour de Jésus à la fin des temps et qui montrent que Jésus y reviendra, ça fait aucun doute. Son retour sera peut-être inattendu, parce que personne ne connaît la date. Alors le maître est parti. Et ce voyage du maître peut être assimilé au temps qui s'écoule depuis son ascension jusqu'à son retour. Donc il n'est pas revenu encore. Alors on ne sait pas combien de temps va prendre ce voyage, mais en tout cas, il ne sera pas illimité. Il reviendra. Et quand on regarde toute cette parabole, il ne faut pas oublier ce point-là. C'est important, il reviendra. Et puis pour finir des personnages, il y a les serviteurs. Là, ils sont 3. Alors on peut peut-être imaginer que les serviteurs, ils représentent les membres de l'Église. Et nous verrons un peu plus tard, à l'issue de cette parabole, que c'est pas en se disant chrétien qu'on l'est vraiment, même si on fréquente assidûment l'Église. Alors, à chacun des serviteurs, le maître donne des talents. Or, les talents, c'était une unité de poids et de monnaie en même temps. Bien qu'on ne connaisse pas tout à fait la valeur fixe du talent qui dépendait du lieu et de l'époque, il semblerait que un talent, ça correspond à ce qu'un homme pouvait gagner pendant une 20aine d'années, entre 200 000 et 400 000 euros. Alors quand le maître lui dit « tu es fidèle en peu de choses », c'était déjà pas mal. Mais comment interpréter les talents dans cette parabole? C'est certainement pas la valeur de l'argent, en argent du talent. On peut dire aussi que les talents, c'est pas la connaissance de l'évangile, parce que dans ce cas, tous les serviteurs ont reçu la même chose. Moi, je crois que les talents dont il est fait question parlent des possibilités que Dieu nous donne pour son service, des responsabilités qu'il nous donne et des capacités aussi qu'il nous donne. Ce sont des choses que Dieu donne dans notre vie chrétienne. Et nous apprenons par cette parabole que nous devons être actifs à son service. Notre service pour le maître montre la mesure de notre relation avec lui, la compréhension de son caractère. Qu'attend le maître de ses serviteurs? Alors pour imaginer ça un peu, on va essayer de faire marcher notre imagination. Pour les jeunes, ça sera facile, la période des examens elle vient juste de finir là. Pour les autres, faut peut-être se rappeler un peu du jeune temps, l'époque des examens, évoquer notre jeunesse, c'est pas hier. Alors, imaginons un instant qu'on est en examen de mathématiques. Alors, l'examen de mathématiques, d'abord on arrive, on est à l'heure, on s'assoit, on range ses crayons, sa gomme, son rapporteur, enfin je ne sais quoi, on rassemble ses idées, enfin on est prêt. Et on retourne la feuille et on lit la première question. Décrivez les effets du réchauffement de la planète sur les pingouins de la Nouvelle-Guinée. A. La deuxième. Expliquez pourquoi le déboisement au Brésil est directement lié au nombre de Big Macs que vous avez mangé les 3 mois derniers. Troisième question. Quelle est la capitale de l'Islande? Pas de panique. On se relaxe. D'abord, c'est imaginaire et puis c'est une blague. Ou avoir un mauvais rêve, je ne sais pas. Dans un examen, on ne pose pas des questions de géographie quand on va à un examen de maths. Alors, quel rapport entre cet examen imaginaire et nos possibilités de service, nos responsabilités? Dieu ne vous demandera pas pourquoi vous n'avez pas fait ce qu'il ne vous a pas demandé. Il ne vous demandera pas non plus de faire ce pour quoi il ne vous a pas équipé. Par contre, il s'attend à ce que vous fassiez, à ce que nous fassions, ce qu'il nous demande et ce pour quoi il nous qualifie. Dans un examen de maths, on s'attend à ce que vous répondiez à des questions de maths. Le maître, quand il donne des talents à ses serviteurs, c'est pour les faire valoir. Et la parabole nous montre que 2 des 3 serviteurs ont travaillé pour gagner plus pour leur maître. Dieu s'attend à ce que nous, qui nous disons ses serviteurs, ses disciples, nous soyons engagés à son service pour faire valoir ce qu'il nous a donné, nos responsabilités, nos occasions de service, nos dons, c'est ça qu'il nous a donné. Il faut donc faire de notre mieux avec ce qu'il nous a donné pour lui et pour l'Église. Alors peut-être un point de départ pour réfléchir sur notre service, nos dons, comment les utiliser. C'est de répondre à la question « qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime faire ? Qu'est-ce que je sais faire ? Pourquoi suis-je doué ?» Et si on réfléchit ainsi, sans mettre de limite, on peut avoir une idée assez claire de la façon dont on peut servir notre Dieu et servir l'Église. Vous avez sans doute remarqué que dans le texte, le maître a donné à chacun selon sa capacité. Au total, il a donné 8 talents à ses serviteurs. Alors, franchement, si ça avait été moi, j'en aurais donné 9, 3 chacun. Comme ça, c'est juste, il n'y a pas de discrimination, pas de problème, pas de revendication. Heureusement, le maître, lui, il donne selon d'autres principes, les siens. 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. Et il agit comme ça pour une raison simple. C'est qu'il connaît ses serviteurs. Il connaît la capacité de chacun. Alors on peut parfois se faire une image de Dieu comme d'un Dieu distant, un Dieu qui s'intéresse peu à nos vies, mais c'est une image fausse. Dieu me connaît, il vous connaît. Si vous voulez dire quelque chose là-dessus, relisez le psaume 139. Dieu sait ce que vous aimez, ce que vous aimez faire, ce que vous n'aimez pas. Il sait ce que vous avez tout au fond de vous. Il sait aussi comment vous allez réagir quand il va vous demander quelque chose. Et Dieu donne à chacun des possibilités pour son service qui nous conviennent parce qu'il nous connaît. Mais cela veut dire pour nous, cela veut dire certainement que nous n'avons pas à nous comparer les uns aux autres. Je suis ce que je suis, avec mes possibilités de service, mes responsabilités, mes capacités, parce que Dieu me les a données. Vous n'êtes pas moi, je ne suis pas vous. Je ne suis pas mieux que vous, vous n'êtes pas mieux que moi. Seulement, nous sommes différents. Et Dieu s'attend à quelque chose de particulier de la part de chacun d'entre nous en fonction de ce qu'il nous a confié. Personne ne peut tout faire, mais chacun peut faire ce que Dieu lui donne à faire. Dans la suite de la parabole, enfin, un jour, le maître revient. Et son arrivée est une surprise. Vous savez qu'à l'époque, quelqu'un qui était parti, surtout pour un long voyage, il ne connaissait pas forcément la date de son retour. Il n'y avait pas la SNCF ni Air France, bien que... Quand on en a besoin, souvent ils sont en grève. Et à cette époque, il était possible certainement d'être en retard ou en avance, pas de quelques minutes ou de quelques heures, mais de quelques semaines ou de quelques mois. Et puis il n'y avait pas de SMS pour avertir. Alors, regardons un peu ce qui se passe quand le maître revient. D'un côté, on a les serviteurs volontaires et fidèles. De l'autre, le serviteur peureux et infidèle. Or, les serviteurs fidèles, ceux qui ont reçu les 5 et les 2 talents, sont venus auprès de lui et tous les deux ont fait valoir leur travail, ils ont doublé le capital. Et la réaction du maître, elle est de louer ses serviteurs fidèles. C'est bien. Pourtant, si on y réfléchit bien, notre maître à nous, est-ce qu'il a vraiment besoin de nous? C'est bien Jésus, quand il est rentré à Jérusalem, qui a dit « Si vous vous taisez, ou s'il se taise, les pierres friront. » Dieu est capable de tout faire par lui-même. Seulement, il a choisi de nous impliquer dans son plan. Il veut bien, il accepte bien que nous travaillions pour sa gloire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, dit Paul. Alors s'il nous trouve fidèles, il va nous louer pour ce que nous avons fait. Il se réjouira de notre fidélité. Et puis, quelque part, il récompense ses serviteurs fidèles. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Il y a la joie du maître à partager. Et puis la promesse d'une plus grande responsabilité, à son service toujours. C'est un peu ce qui se passe en principe dans la vie. pas toujours, mais souvent. Au travail, à l'école, même à l'église. Si on fait un travail et puis qu'on le fait bien, alors souvent on a plus de responsabilités. La promesse du maître, elle, elle aura son achèvement au ciel, quand on aura combattu le bon combat, quand on aura achevé la course, quand nous aurons gardé la foi. Alors nous serons avec lui, avec notre roi, nous serons dans la joie avec lui, nous partagerons sa joie. Je ne sais pas ce qui vous semble, mais moi il me semble que le serviteur qui a gagné 5 talents, il a mieux fait que celui qui en a gagné 2. Mais le maître, il félicite les deux de la même façon, rigoureusement. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Dieu tient compte de la qualité, de l'intention, beaucoup plus que de la quantité. Dieu ne nous compare pas non plus les uns aux autres. Il demande simplement que nous faisions de notre mieux avec ce qu'il nous a confié. Puis finalement, dans l'histoire, le troisième serviteur arrive, parce que lui aussi doit rendre compte à son maître. Et dès le début, je ne sais pas si vous le remarquez, il se défend. « Seigneur, je savais que... » Il lui rend le talent qu'il lui avait donné avec ces mots « Voici, prends ce qui est à toi. » Il sait bien quelque part qu'il a déplu à son maître. Et lui, il ne reçoit pas de félicitations. Il reçoit une condamnation du maître. Il est puni pour ce qu'il a fait, plutôt pour ce qu'il n'a pas fait. Où se trouve le problème de ce serviteur? Alors, lui, il croyait bien connaître son maître. Et son maître lui faisait peur. Il n'a donc pris aucun risque. Il a fait un trou, il a caché le talent, celui que le maître lui avait confié, parce qu'il croyait avoir un maître dur, impitoyable. Plutôt que de prendre quelque risque que ce soit, il n'a rien essayé. Alors à l'époque, peut-être encore aujourd'hui, cacher son argent dans la terre est la chose la plus sécurisante qui soit. Là, il est à l'abri des voleurs, il est même à l'abri d'un krach boursier, même d'une faillite bancaire. Mais caché, il a peu de chances de pouvoir être utilisé. Il a peu de chances de fructifier, ça ne pousse pas ces trucs-là. Le serviteur infidèle, sa motivation, c'était la peur. Il n'aimait pas son maître, il le craignait. Et puis il avait une très mauvaise opinion de son maître. Il l'accuse même d'être quelqu'un qui profite du travail des autres. Je savais que tu es un homme dur, que tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Si vraiment il avait connu son maître, il aurait su que finalement c'est un homme bienveillant, digne de confiance. Les deux autres serviteurs le connaissaient comme ça. Alors au début, on a assimilé les serviteurs aux membres de l'Église. Et là, nous voyons qu'il y a une distinction entre ceux qui sont dans l'Église, les serviteurs fidèles, les vrais chrétiens, et puis le serviteur infidèle, qui dans les églises se croit chrétien, se dit chrétien, mais qui en dernière analyse ne connaît pas son maître. C'est celui qui veut un chemin facile vers le salut, sans aucune obéissance aux exigences de son maître, et sans faire valoir ses talents. Alors le problème, c'est qu'il a une fausse assurance, un faux espoir, parce que la promesse du ciel est pour celui qui croit et qui persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors moi je trouve que, quelque part, cette parabole est relativement dure. En tout cas, c'est un sérieux avertissement. Notre foi doit être mise en pratique. L'apôtre Jean, Jacques nous dit dans sa lettre, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Un chrétien passif, inactif, celui qui vient chauffer le banc le dimanche, là, n'est pas vraiment un chrétien. Venir à l'église ne suffit pas. Ce qui est important, c'est la relation qu'on a avec Dieu, avec notre maître. Et les œuvres bonnes qu'on a à faire, ce n'est que la conséquence de cette relation avec lui. Nous vivons dans un pays catholique. Enfin, il semble que ce soit encore un peu comme ça. On disait que c'était la fille aînée de l'Église, la France. Hein. Et certains dans notre pays se croient en règle avec Dieu parce qu'ils ont été baptisés, parce que même ils ont fait leur première communion, et puis même que parfois ils vont se confesser et ils vont à la messe. Mais tout ça, ça n'a aucune valeur si on n'a pas de relation avec Dieu. L'important, c'est ce qu'on connaît de lui. Alors, vous pouvez aussi assister au culte. Si vous n'êtes jamais venu à Jésus pour lui demander son pardon, si vous n'avez jamais confessé votre péché, votre besoin de sauveur, si vous n'avez jamais accepté la nouvelle vie qu'il donne, vous n'êtes pas chrétien. Être actif, n'avoir que des œuvres ne suffit pas. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et si on oublie cette vérité, on va tomber dans le travail pour essayer de plaire à Dieu. Et c'est sans espoir. Parce que si nous pouvons plaire à Dieu, si nous pouvons être acceptés et aimés de lui, c'est uniquement parce que Jésus a déjà fait, c'est déjà accompli. Puis enfin, faire fructifier nos talents, c'est pas seulement réservé à l'Église. Dans nos cultures évangéliques, la foi, c'est peut-être l'Église le dimanche matin. Alors, sommes-nous chrétiens le dimanche et le lundi, du lundi au samedi? Qu'est-ce qu'on est? En fait, on est chrétien 7 sur 7, 24 sur 24. Donc, notre service ne se limite pas à l'Église. Nos possibilités de service, nos responsabilités, c'est tous les jours de la semaine. Alors, les paroles de Jésus dans cette parabole sont sévères. Le serviteur infidèle est jeté dehors. Dans les ténèbres du dehors. Et c'est une juste et certainement terrifiante image de ce qu'est l'enfer, exclu de la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est peut-être la parole de cette parabole la plus difficile à avaler. Mais cette parabole nous fait nous poser certaines questions. La première, suis-je un serviteur fidèle ou un serviteur infidèle? Est-ce que j'agis par peur de déplaire à Dieu ou parce que je l'aime? La Bible nous dit que les vrais enfants de Dieu, les croyants, ont été scellés par l'Esprit Saint pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Ça laisse, d'ici là, la place à l'échec. Finalement, ici, on est en chemin, on est en formation. La peur de l'échec, ça ne doit pas nous empêcher d'agir. Nous ne sommes pas encore parvenus à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et puis, l'apôtre Jacques nous encourage et nous avertit, la foi agit avec les œuvres. Et par les œuvres, la foi est rendue parfaite. La deuxième question, comment comprendre le fait que certains chrétiens dans l'Église ne sont pas vraiment chrétiens? Alors, dans cette parabole, on ne voit pas les serviteurs se juger les uns les autres. C'est le maître qui juge. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, nous voyons les paroles des autres, nous voyons le comportement des autres, mais leur cœur nous est inconnu. Leur motivation nous est inconnue. Alors, ne jugeons pas les autres. Nous n'avons à critiquer ni leur possibilité de servir, ni leur façon de servir, ni les responsabilités qu'ils ont. Nous avons seulement à nous encourager les uns les autres, à rester purs, à rester saints, à trouver et à faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Laissons le jugement au Maître, parce que lui, il sait ce que nous avons dans le cœur. Chacun, chaque serviteur est responsable de lui-même. Alors pour conclure, il est possible que ces questions nous laissent dans une position un peu inconfortable. Parce que c'est des questions qui nous concernent, qui concernent notre être profond. Mais cet inconfort, je m'envoie ce matin, cet inconfort est peut-être salutaire. C'est l'Esprit Saint qui donne l'assurance d'être enfant de Dieu. Et si vous êtes chrétien, c'est lui qui vous équipe pour le service que Dieu vous demande. Et c'est lui aussi qui vous convaincra votre besoin de sauveur, votre besoin de relation personnelle avec Dieu, si, bien que dans l'Église, vous n'êtes pas encore chrétien. Que Dieu vous bénisse.